Radio Chablais. Suivez-nous, on vous suit.
On met des moyens auxiliaires pour que toute personne puisse essayer, se rendre compte de la réalité de tout un chacun et tout un chacune. Donc c'est vraiment, tout sera concentré plus ou moins au même endroit. Pas forcément besoin d'inscription. Vous venez et puis et vous participez avec grand plaisir.
Et ça permet de sensibiliser aussi, vous l'avez souligné, la difficulté, le difficulté qu'on peut avoir face aussi à l'activité sportive. Et ça, c'est important de pouvoir transmettre ces perceptions-là à la population, Carole Julliard.
Oui, bien sûr, ça c'est manifeste. Et puis justement, avec le parcours qui va être réalisé par OrthoConcept, les personnes vont pouvoir essayer des fauteuils, vont pouvoir essayer, voir, parce qu'il y aura des lunettes de vision particulières. Donc ils verront aussi les capacités qu'ont les personnes à mobilité réduite de se déplacer, soit en fauteuil, soit effectivement en marchant. Il y a aussi la possibilité d'essayer des attelles de marche, voilà, pour voir un petit peu ce que ça fait, parce que ça sont des choses aussi, tant qu'on les a pas essayées, tant qu'on l'a pas vécu une fois, on peut absolument pas se rendre compte de ce qui se passe. Donc ça va être vraiment ouvert pour que les personnes à mobilité réduite puissent vraiment être dans l'inclusion, en fait, de la population de VV et des autres personnes qui viendront justement nous visiter.
Donc rassembler tout le monde, on va peut-être rappeler Joseph Bierry, directeur de la Fondation des Églantines ici à Vevey, l'importance aussi de ce type d'événement, de sortir de ses murs, puis d'aller à la rencontre de la population, de montrer ce que vous faites, mais aussi d'être ensemble avec les gens et la population de Vevey.
Complètement, et puis ça fait partie de notre mission finalement. Alors on a plusieurs missions, mais une des principales, c'est aussi d'essayer de faire évoluer le regard de la société sur les personnes qu'on accompagne. On part vraiment du principe que chaque être humain qui marche pas, qui parle pas, ait sa place dans la cité, dans la société. Donc on a vraiment un rôle à jouer pour faire évoluer le regard sur les personnes qu'on accompagne. Pas que les personnes s'arrêtent sur le premier regard qui peut engendrer parfois des peurs, mais simplement prendre en considération chaque être humain, quel qu'il soit sa situation finalement. Donc ça fait partie de notre mission.
Peut-être le mot de la fin aux initiatrices du projet, les deux physiothérapeutes, Laurine Mercier et Carole Julliard. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, Carole Julliard?
Bah écoutez, que les gens viennent nombreux, qu'effectivement si ils ont envie de nous aider, qu'ils peuvent aussi, hein, on a besoin aussi de bénévoles, donc ça c'est vraiment aussi important, que cet événement soit reconduit. On espère le faire tous les deux ans, donc ça puisse vraiment être une réalité, que ça fasse partie de la vie des Églantines et puis de la ville de Vevey, et que vraiment on puisse tous s'accueillir sans souci et sans avoir un regard effectivement différent, que l'on soit en situation de mobilité réduite ou pas.
Laurine Mercier.
Que ça soit une après-midi au final sous le thème de la solidarité, de l'entraide, et que ça soit festif, qu'au final tout le monde s'amuse, et quelles que soient nos capacités à chacun et à chacune.
C'était donc le directeur de la Fondation des Églantines, Joseph Bierry, accompagné par Laurine Mercier et Carole Juillard, physiothérapeute et organisatrice du Relais de l'Inclusion, un événement qui, on le rappelle, se déroulera le samedi 14 juin à Vevey.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Et cette dernière partie de MAG nous est présentée par Daryl. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Attaque.
La fête fédérale de la gymnastique de Lausanne 2025 débutera demain matin jusqu'au 22 juin après près de 65 000 par sportifs
investiront la capitale vaudoise.
Merci.
C'est avec plaisir.
Ces dernières semaines et dernier épisode.
C'est ça. Alors il y a Thierry Nicolet qui vous a proposé une série en mettant en lumière 6 sociétés de la région. On est d'accord, Daryl? Et aujourd'hui, oui, c'est le 6e et le dernier, c'est ça?
Oui.
Et il met à l'honneur qui? La FSG, la Tour de Paix. Reportage.
La Tour de Paix est à l'honneur du dernier épisode de notre série. créée en 1877, elle fêtera ses 150 ans dans 2 ans. Aujourd'hui riche de plus de 200 membres, elle sera représentée dès demain à la Fête fédérale de gymnastique de Lausanne 2025. Vice-présidente de la société, Laura Padula-Schlesser s'en réjouit forcément.
La fête fédérale, c'est un peu notre coupe du monde de gymnastes. On sent qu'il y a de l'effervescence, tout le monde en parle, on se réjouit de la vivre. On sait que ce sont des moments extrêmement forts pour nos gymnastes et puis des moments extrêmement festifs aussi. Et on se réjouit de présenter nos différents groupes qui participeront à cette fête fédérale et également qui participeront au show J'imagine et puis au gala de clôture de la fête.
Ces groupes qui participeront, vous pouvez nous les présenter en quelques mots évidemment.
Alors on a le groupe des parents-enfants qui va y participer au niveau du gala de clôture ainsi que le groupe des dames. On a le groupe des 7-12 compétitions qui va se présenter, le groupe des actifs qui est derrière moi qui va aussi se présenter à cette fête. Et puis on a encore la chance d'avoir notre groupe team, groupe extraordinaire, c'est-à-dire un groupe de gym inclusif qui va aussi participer au show J'imagine et au gala de clôture.
On fait une fois, le but là c'est vraiment qu'on aille dans la synchro surtout. Et puis une chose que Léa elle a dit, il faut encore qu'on soit plus un tout petit peu précipité et écouter bien la musique pour tout ce qui est choré. Des fois vous attendez d'avoir le temps pour partir alors qu'en fait c'est sur le temps qu'il faut faire le mouvement. Donc faites bien attention à ça s'il vous plaît. Ça joue pour vous, on le fait une dernière fois, après on met le sol.
Nous avons assisté à une session d'entraînement du groupe des actifs, produit d'une fusion entre les FSG de la Tour de Paix et de Montreux. Léo Salvador, 17 ans, en fait partie. Il participera à sa première fête.
Moi, malheureusement, j'ai loupé celle d'avant qui était à Arau, si je dis pas de bêtises, parce que je suis arrivé 2 ans après. Mais on m'a raconté vraiment que du bien et apparemment, c'était aussi beaucoup la fête. Du coup, j'ai un peu hâte, on verra bien.
Qu'est-ce que vous allez présenter? On vous a vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut décrire tout le programme qui va être mis en place à Lausanne?
On va faire une combi, du coup, saut et sol. Et on va faire une prod de sol qui est relativement nouvelle, vu qu'on l'a commencé cette année. Avant, on faisait que de la combinaison. Maintenant, on fait combi et sol.
Il y a une préférence entre les deux?
En fait, la combinaison, ça fait vraiment hyper longtemps qu'on l'a fait, celle-là. Et du coup, en fait, il y a un peu de lassitude qui commence à s'installer. Et ce qui est marrant, c'est que le sol, la première fois qu'on l'a faite, on a eu direct une note de 0,2 beaucoup meilleure que par rapport à la combi. Donc vraiment, je sais pas, on est plus content de faire le sol. Quoi.
Non, on va pas le faire à blanc avant. Pourquoi? Parce que déjà, on doit revoir certaines positions. Donc on va aller jusqu'à ce qu'on connaisse pour le principal ce qui s'est passé la semaine passée, donc choré commune. Pour les mini-changements qu'on a fait, je rappelle, donc Léa, tu es ici, de ce côté-là maintenant. Et puis, je vais replacer quelqu'un une fois qu'on a fait la choré. Faut juste que je revoie pour pas qu'on ait 1000 déplacements et que ça soit bien chorégraphique. Donc, je vous propose de le faire une fois. D'accord? Jusqu'à la choré commune, donc du sumo. Ok, en place!
Mélanie Bossion prendra part quant à elle à sa deuxième fédérale. À 23 ans, elle a également décidé de s'engager dans le comité central de la manifestation.
Je serai en tant que gymnaste, en tant que monitrice. Et je me suis dit, une fête fédérale en Suisse romande, c'est pas tout le temps. Donc si j'ai la possibilité de m'investir plus qu'en tant que gymnaste et monitrice, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le comité d'organisation. Et du coup, je suis dans le secrétariat général. Donc c'est nous qui traitons en fait toutes les demandes qu'on reçoit, en fait toutes les questions par rapport à la fête fédérale. Et du coup, c'est moi qui traite ça. Et en parallèle, je fais aussi les traductions en allemand pour le site internet et les informations qu'on reçoit.
Pour qu'on se rende bien compte à quel point c'est un gros événement, le nombre de mails, j'imagine qu'il y en a pas mal.
Oui, alors on en a beaucoup, et surtout dans les périodes critiques, c'est-à-dire pile avant que les inscriptions elles se ferment, ou maintenant que justement on avait encore des délais, c'est là qu'en fait les mails se démultiplient, parce qu'il y a les dernières questions avant que les délais soient fermés. Donc là, je pense qu'on est à une bonne 150 mails à traiter tous les jours. Quoi.
Ça représente quoi dans votre planning de la semaine?
Beaucoup, parce que je suis à peu près tous les jours en salle en tant que gymnaste, monitrice. Et l'avantage du secrétariat, et c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion de le faire, c'est que j'ai la possibilité de le faire depuis la maison avec mon ordinateur. Donc je le fais un peu dans le train, en allant le matin travailler, quand j'ai une petite pause, etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement, mais qui en vaut la peine.
Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était 8. Ok, très bien.
Hey, ouais, c'est vrai, c'était magnifique. Le reportage audio ainsi qu'une vidéo sont à retrouver sur notre site internet radiochablais.ch.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Viens d'ici.
Venez. Vidi. Hein? Ici. Oh. Venez. Vidi. Ici. Sur Radio Chablais.
Bruno Antas, président de la Société Villageoise de Mai. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Un vrai plaisir. Mestival Open Air, qu'est-ce que c'est exactement ?
Le Mestival Open Air, c'est une idée un peu folle qu'on a eue avec le comité, de se dire, voilà, on voulait organiser quelque chose de différent dans notre village, on a différentes activités. Et puis cette année, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de faire un festival de musique, on a un super emplacement, pardon, et puis essayer de faire quelque chose de différent, et faire monter les gens à Mai surtout.
Oui, c'est plutôt du rock, on est d'accord.
C'est plutôt du rock, ouais.
Ça se passe où ?
Ça se passe à la Plaine du Câble, à Mai. On a un couvert qui est là-bas, qu'on met en location, nous, la Société Villageoise. Et puis, juste à côté, on a un superbe terrain où on peut faire quelque chose de sympa.
Ça a lieu quand ?
Ça a lieu samedi 7 juin.
C'est à partir de quelle heure ?
Alors, le premier concert sera à partir de 17h, mais on va dire qu'on ouvre les portes à partir de 16h pour les gens qui veulent commencer à venir s'installer.
C'est fait par qui ?
C'est fait par la Société Villageoise de Mai.
Et pourquoi il faut y aller ?
Parce que tout simplement c'est Mai, il faut connaître le village et puis c'est une nouvelle activité. On veut avoir le plus de monde possible pour montrer notre village à tout le monde en fait. Voilà.
Oui, et, par contre il y a une petite particularité niveau météo peut-être.
Niveau météo, il y a une petite particularité effectivement. S'il fait mauvais, ben, malheureusement on va devoir l'annuler parce que on est une petite société et puis on n'a pas demandé de sponsor ou quoi que ce soit pour ce festival. Donc s'il fait mauvais et puis qu'il y a personne qui monte, ben voilà, on va devoir annuler. Ouais.
Bon, on croise les doigts pour qu'il fasse
merci.
Beau. Toutes les infos sont sur www.saint-maurice.ch ou alors sur la page de l'Office du Tourisme de Saint-Maurice sur Facebook et Insta. Merci Bruno, plein succès, on
merci
y croit.
Beaucoup.
Et à bientôt.
Veni, vidi, ici, sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Une fois par mois, et on n'a pas pu le faire le mois dernier, ça m'a manqué. Une fois par mois, on donne la parole à la jeunesse dans Attends, je t'explique. C'est en collaboration avec le Solouna de Montée, Annie Molon, le CIL de Colombey-Murat, l'association de la jeunesse Aiglonne et le service socioculturel intercommunal de la vallée d'Illier. Ils m'envoient des jeunes magnifiques pour parler de sujets qui les intéressent eux, pour qu'on leur pose des questions, pour qu'eux ils puissent parler. Parce que finalement, c'est souvent le cas quand on a des interviews avec des jeunes, c'est des questions de vieux. Posé à des jeunes, et puis on se surprend qu'il n'y ait pas d'intérêt. Mathéo, salut et bienvenue.
Bonjour, bah...
Alors attends, on n'a pas encore commencé, tranquille, là c'est vraiment juste de bonjour et de bienvenue. Et Timéo, salut et bienvenue à toi aussi.
Ça va, salut.
Salut. Bon, alors Timéo, toi tu viens justement de la société, du service socioculturel intercommunal de la vallée d'Illier. Et puis toi Timéo, de l'AJA, de l'association de la jeunesse Aiglonne. C'est l'inverse. Ah oui, c'est Timéo qui vient d'Aiglon. Super, tout commence très bien, messieurs. Merci beaucoup. Donc, ok. Voilà, donc Timéo de l'AJA et Mathéo de la SSI, du SSI. Bon, par qui on commence ? Qui c'est qui veut répondre d'abord ? Les jeux vidéo, c'est quoi ? C'est la question qui nous occupe aujourd'hui.
Comme tu veux.
Bon, vas-y, commence.
Alors, Timéo, attaque.
Ben, pour moi, c'est un passe-temps pour s'occuper quand on ne sait pas quoi faire et pour se divertir.
Ouais, ok. C'est simplement ça.
Oui.
Ok. Et pour toi, Mathéo ?
Bah moi aussi, c'est un peu pour me divertir. Aussi, j'aime bien faire des fois des compétitions en ligne s'il y en a.
Ouais.
Sur certains jeux. Et sinon, c'est pour me divertir quand j'ai le temps.
Alors déjà, oui, le temps il faut l'avoir parce que j'imagine qu'on a des devoirs et tout ça. Bah, on peut pas faire comme on veut, Timéo. Hein.
Ouais. Surtout, certains jours, il y a beaucoup de devoirs. Et d'autres, il y en a moins. Donc d'autres, on peut plus jouer que les autres.
Plus fastoche les week-ends aussi pour toi, aussi chez toi, Mathéo.
Ouais, c'est plus facile. Enfin, ça dépend.
Ça dépend, ouais. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça. Mais en fait, vous avez aujourd'hui, les jeunes, entre l'école, les cours, les activités extrascolaires, vous avez des agendas de ministres.
Ouais, ça c'est vrai.
Toi aussi, tu as été relativement bien occupé, Mathéo.
On a bientôt fini, donc...
Enfin.
Ouais, 3 semaines.
Allez les gars, force à vous. Par contre, toi Mathéo, tu le vois un peu plus du côté compète de temps en temps, les jeux vidéo.
J'ai fait, par exemple sur Fortnite, j'ai fait quelques compétitions. Mais alors, c'est pas du tout avec de l'argent ou comme ça, c'est juste pour gagner des skins ou comme ça.
D'accord, donc des skins, ça va être des... Explique-nous ce que c'est des skins.
Des skins, c'est un peu un revêt... Enfin, comment expliquer ?
Oui.
Un skin, ça va être juste pour la décoration. Ça va rien changer spécial.
T'avais bien commencé avec revêtement, c'est en fait ce que le personnage que tu as va revêtir.
Voilà.
Ok. Et puis Fortnite, est-ce que toi aussi tu joues à Fortnite, Timéo ?
Ouais, plus trop maintenant, mais avant je jouais beaucoup.
Explique-nous en 2 mots ce que c'est.
En gros, c'est un battle royale où il y a 100 joueurs, et puis faut s'affronter jusqu'à qu'il reste plus qu'un, et celui qui reste, il a gagné, quoi.
D'accord, ok, je vois le délire. Donc on est pas dans du jeu de rôle, pour les plus âgés comme moi.
Oui, en soi, il y a plusieurs modes maintenant qui sont arrivés au fil du temps.
Ouais.
Il y a le mode créatif, le mode Lego, le mode musique, je crois.
Festival.
Ouais, le festival, okay. Et le Rocket Racing. C'est des voitures, c'est un mode de voiture et tout.
Ok, d'accord. Ouais, vas-y.
Bah, c'est un peu devenu le bordel depuis quelques temps, parce que maintenant, les maps créatives, c'est un peu n'importe quoi. Tu peux créer tout ce que tu veux, et puis c'est un peu parti en couille.
Ok, écoute, on va voir tout ça dans la deuxième partie. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pour l'instant, on va faire une pause musicale. On se retrouve juste après, messieurs.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
C'est tout de suite beaucoup plus clair.
Bon, aujourd'hui, apparemment, j'ai le cerveau en spaghettis, je m'en mêle les pinceaux. Timéo, toi, tu viens de la vallée d'Illier.
Oui.
Ok, c'est bon, cette fois c'est juste.
C'est bon cette fois.
Du service socioculturel intercommunal. Et puis Mathéo de l'association de la jeunesse Eglon. Waouh, ok, on parle de jeux vidéo. On vous avait parlé de Fortnite, où en fait c'est un jeu où on peut faire de plus en plus de choses. C'est un battle royale qui s'est transformé potentiellement en course de voiture. Enfin, les jeux vidéo, ils ont énormément évolué. Moi, à l'époque, je jouais à GoldenEye sur Nintendo 64. Tu pouvais jouer max 4 joueurs, c'est tout. Aujourd'hui, on peut jouer avec des personnes du monde entier, Mathéo.
Oui, exact. On peut même jouer avec des gens qui se trouvent dans un... Des gens qui sont en train de dormir. Et nous, c'est le matin. C'est très bizarre.
Oui, c'est ça. Avec des personnes qui sont sur un fuseau horaire complètement différent.
Ouais, exact.
Et puis, Timéo, toi, est-ce que tu joues en réseau aussi ou pas trop ?
Je joue en réseau face à des autres joueurs. Puis c'est marrant, comme ça, on peut trouver des gens à un autre niveau que nous, et puis soit on se fait éclater, soit on les éclate. Ou sinon, c'est rare, mais des fois c'est équitable, mais c'est assez rare.
C'est assez rare, tu dis, il y a plutôt des creux, des différences entre les joueurs, hein, oui, de manière générale.
Ouais.
Ok. Et puis pourquoi tu joues en réseau, Mathéo, toi ? C'est quoi le truc derrière ?
À la base, c'était juste pour me faire des potes. Des fois, si je joue, par exemple, un de mes potes que je me suis fait sur Fortnite, c'est en le tuant sur Fortnite que je l'ai connu.
Ok, d'accord.
Enfin, je le connais pas directement dans la vraie vie, mais je le connais parce que il est dans ma liste d'amis.
Et puis, du coup, de temps en temps, t'as des rendez-vous avec lui pour jouer avec.
En fait, c'est juste quand je le vois connecté, je joue avec lui.
Ouais, directement.
Ouais.
C'est genre, tu vas vers lui, genre, hey, salut, je suis là.
Voilà.
Ok. Est-ce que toi aussi, tu abordes le réseau de la même manière, Timéo ?
Non, pas forcément. Moi, c'est plutôt pour jouer avec les copains ou comme ça.
Donc, tes potes à toi déjà ?
Ouais. Mais après, des fois, ça arrive souvent, mais des fois, on se fait éclater. Et du coup, on invite les autres joueurs en face pour parler avec eux, pour leur demander comment ils font, quoi.
Tu peux communiquer ? Ouais. Avec des joueurs d'à l'autre côté de la planète qui t'a battu, puis tu fais comment t'as fait pour être aussi bon, parce que là j'en ai pris plein la tronche. Tu peux faire ça?
Oui.
Ok, et puis comment ça se passe dans ce genre de situation? Je veux dire, est-ce que les gens sont plutôt sympas, ou bien est-ce qu'il y a une espèce de guéguerre un peu malsaine, Mathéo?
C'est vraiment, ça dépend. Il y en a plein, par exemple, moi, une fois je jouais sur micro, donc j'avais mon casque avec un micro, et j'avais un de mes copains, il avait ramené d'autres de ses copains. Mais j'étais tout toxiques. Ils hurlaient dans leur micro, genre en mode.
D'accord.
C'était des tarés dans leur tête, je sais pas. On a fait une game avec eux et c'était vraiment horrible. Ils jouaient pas. Ils faisaient n'importe quoi.
C'était pas vraiment fair play, c'était pas un super état d'esprit.
Non, mais ils faisaient que hurler. C'était. Non, c'était horrible.
T'as pas fait de partie alors?
Non. J'ai abandonné.
Et toi, ton expérience dans le jeu en réseau, Timéo?
Bah, une bonne expérience, quoi. C'est
plutôt positif, ouais. Généralement.
Ouais. Après, des fois, il y a des gens aussi, ils nous ajoutent un peu pour rager, quoi.
Ah ouais?
Ouais, mais ah, ça.
Ça existe aussi, ça?
Oui. Ça arrive rarement, après.
Ok. Encore heureux, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui joue en réseau. On parle de plusieurs dizaines de millions de personnes suivant le jeu.
Ouais.
Ok, d'accord. Toi, à quel jeu tu joues plus principalement? Parce que déjà, est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu joues principalement et d'autres pas? Ou Timéo?
Bah, je pense le jeu où je joue le plus en ce moment, je pense, c'est FIFA.
En ce moment?
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres jeux avant?
Oui, parce que après, c'est un peu bizarre, mais ça varie en fonction de mes humeurs et tout.
Ok, explique-nous ça.
Si. Je sais pas trop comment dire, mais si des fois je suis plutôt énervé, moi, c'est assez rare que je sois énervé.
Mais ça peut arriver, ouais. T'es humain, vas-y.
Mais genre, je vais plutôt jouer à un certain jeu qu'un autre, parce qu'il y a des jeux. Ça t'énerve encore plus d'y jouer et que d'autres.
Il y a des jeux qui vont te défouler et puis il y a des jeux qui risquent dont la complexité risque de t'énerver encore plus, c'est ça?
Oui.
Ok, comme par exemple quoi?
Bah, par exemple, FIFA, maintenant que c'est FC 25 et tout, ça, c'est plutôt rageant comme jeu. Ouais. Même si je continue à jouer, c'est.
Aussi en ouais. plus. Donc, c'est pas celui-là que tu vas choisir pour te défouler.
Ouais, c'est pas celui-là.
Et pour toi, Mathéo, qu'est-ce qui fait que tu joues à un jeu plus qu'à un autre? Toi, c'est quoi ton jeu de prédilection?
C'est Fortnite, mais ouais. Sinon, en fait, ça dépend. Parce que des fois, quand je veux juste jouer tranquille, et voilà, je vais plutôt jouer à Fortnite solo tranquille.
Ouais.
Et après, si je veux me défouler et commencer à hurler dans mon micro, je joue en squad avec mes potes.
Ah, donc ça t'arrive aussi à toi des fois, c'est toi qui hurle des fois?
Ouais, juste pour... Non, mais c'est un délire qu'on a avec des potes.
Ah, ok, d'accord, donc c'est entre personnes qu'on s'entende, j'allais dire.
Voilà.
Okay, d'accord.
On est obligé.
Et tout le monde dans le même délire. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on choisit donc on sait que c'est plutôt pour se défouler, mais qu'est-ce qui va faire qu'un jeu te plaise plus qu'un autre, Timéo, à toi?
Je pense que ça dépend surtout aussi avec qui on joue.
Ok.
Donc voilà. Moi, souvent, je joue avec mon petit frère. Et puis. Il joue des fois à des jeux que j'aime pas trop jouer, mais que je joue quand même pour jouer avec lui, quoi, parce que...
Ok, donc ça rentre dans la relation frangin, quoi.
Ouais.
Ouais, moi j'avais aussi ça un peu quand j'étais plus petit, sauf que quand je battais mon frère, lui il me tapait. Samuel, si tu m'entends, je te salue. Et puis toi, Mathéo, pourquoi tu vas choisir... pourquoi tu vas... Qu'est-ce qui va faire qu'un jeu te plaise plus qu'un autre?
Je pense dire... Parce qu'il y a certains jeux que tu vas jouer tout seul. Prenons Zelda.
Ouais.
Tu vas jouer tout seul, tu vas... Et puis moi, personnellement, j'ai arrêté parce que ça me faisait un peu...
Ok, d'accord. Ouais. Oui, on voit le mot qu'il y a derrière.
Voilà. Et parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu te balades, tu fais rien. Et puis quand t'as pas de monstre à affronter, soit parce que moi, vu le niveau que j'avais, il n'y avait que des monstres forts, donc je me faisais démarrer.
Ok. Ce qui veut dire que tu ramassais.
Ouais, je rageais encore plus.
mais comment? Parce que c'est ça le truc. On est d'accord que les jeux vidéo aussi, c'est là pour sécréter de la dopamine. Hein. C'est comme ça qu'on est content quand on a gagné. Mais comment est-ce qu'on gère quand on a perdu? Parce que c'est l'inverse de la dopamine. Comment tu gères, toi, Mathéo?
Moi, personnellement, si prenons. Je joue avec mes potes en squad.
Ouais.
Qu'il reste un seul mec contre nous.
Ouais.
Et qui joue lance-roquettes et qui nous. Il nous lance trois lance-roquettes. Qu'on meurt tous les.
Toute l'équipe.
Je pense que je vais hurler, je vais sauter sur mon lit. Je vais vraiment rager, je pense.
Ok, d'accord. Et puis toi, Timéo?
Moi, j'arrive plutôt à me canaliser, on va dire.
Ouais.
Mais j'ai des potes, c'est tout l'inverse de moi. Genre, il y en a un, il a déjà jeté sa manette dans l'écran. L'écran, il s'est cassé.
Oula.
Bon, après, ça, c'est un peu le niveau extrême, ça.
Oui, effectivement. Donc, on recommande quand même à tous les gamers et toutes les gameuses de jouer quand même avec parcimonie et puis de faire les choses comment dire, avec plus de cœur et moins de rage peut-être. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas?
Ouais. Oui, je pense.
Ouais, on est d'accord. Et est-ce qu'il y a un dernier truc que vous voulez dire sur les jeux vidéo? Je vous le cède la parole, c'est votre moment. Vas-y, Timéo.
Bah, je sais pas trop. C'est cool, quoi.
Ok.
C'est bien pour discuter avec ses potes en dehors de l'école et tout ça. Et puis aussi de faire des nouvelles rencontres aussi.
Et toi, Mathéo, un petit dernier mot. Dis ce que tu veux sur les jeux vidéo.
Bah, moi, je pense que les gens, certaines personnes, par exemple, même des joueurs pro, ça dépend. Mais par exemple, il y a un joueur pro Fortnite, lui, il s'appelle Mongral, mais alors lui, après, t'as un acouphène si t'écoutes certains de... Mais il est tellement fort que moi, ça me fait rager de le voir rager. C'est vraiment... voilà.
C'est contagieux, je comprends tout ça. En tout cas, Mathéo et Timéo, merci beaucoup d'être venus nous expliquer un petit peu votre monde, comment vous le vivez. C'est ça le but de l'opération. Et vous l'avez fait avec brio. On est arrivé à la fin de cette interview. Donc je rappelle que Mathéo, tu viens de l'AJA, je me trompe pas?
Voilà.
Association de la jeunesse Aiglonne, bravo Loïc. Et Timéo du service socio-culturel intercommunal de la vallée d'Illier. Merci infiniment, messieurs. Et à bientôt.
À bientôt.
Merci à vous et à bientôt.
Radio Chablais, programme de nuit.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
C'est un peu le film, attrape-moi si tu peux, mais en vrai, Leonardo DiCaprio s'appelle Alexander dans ce cas-là. Entre 2018 et 2024, cet Américain a exploité un système de réservation interne réservé au personnel aérien, mais il a surtout exploité les failles de ce système en se créant des fausses identités, des faux numéros de badge et ainsi de suite. Pendant 6 ans, il a voyagé 120 fois gratuitement. Il a même fait voyager des proches, des potes à lui, comme ça, avec lui, en exploitant ce système de réservation. Il se faisait passé pour un employé de compagnie aérienne, que ce soit du personnel de vol ou du personnel de cabine, et il voyageait tranquillement, gratuitement. Il a fallu qu'en 2024, suite à différents suivis et nouveaux systèmes de surveillance interne dans ses programmes informatiques, qu'il soit démasqué. Il a été démasqué, mais alors par contre, il peut prendre cher, hein. On rigole pas aux États-Unis a priori avec ceci, puisqu'il risque 30 ans de prison quand même, le garçon. Ça fait cher le vol au final.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
C'est un peu du réchauffé qui a fait un agent de police dans le sud de l'Angleterre et pourtant, il a pu quand même faire semblant de bosser à peu près 120 heures avant de se faire attraper. Alors sur le total des heures, et ça fait quand même à peu près 6 mois de travail, alors pas les 120 heures, mais le temps qu'il a fallu pour l'attraper, parce qu'il y a quand même des moments où il allait bosser pour de vrai, le garçon, ce qu'il faisait, c'est qu'il ouvrait son ordinateur à la maison en télétravail, son ordinateur portable, un fichier Word, la touche Z, un petit poids sur la touche Z et il laissait tourner l'ordinateur comme ça pendant 4 heures. Ça a dû en faire des pages de Z à part ça. Mais il a quand même travaillé comme ça, enfin fait croire qu'il travaillait pendant de très très nombreux mois. Il me semble que cette histoire avait déjà eu lieu d'ailleurs quelque part ailleurs et dans un autre temps plus proche de la grande période de télétravail qu'on a connue il y a quelques années. En tout cas, il s'est fait attraper puis il dit non, mais promis, c'était pas du tout pour faire semblant de travailler, c'était une erreur de ma part. Quand en plus on essaye de mentir et qu'en plus on est agent de police, il y a quand même un moment où on perd toute crédibilité et on se fait virer.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud.
Je crois que je suis vraiment chaud.
Sur le grill.
Les cérémonies laïques, c'est une nouvelle tendance actuellement, que ce soit pour des mariages, des baptêmes ou également des enterrements. On en parle avec une spécialiste des cérémonies laïques, Ornico Frézard. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi déjà une cérémonie laïque?
Alors une cérémonie laïque, c'est une cérémonie qui est hors du champ religieux, si on peut le nommer comme ça, qui est plutôt destinée aux personnes qui auraient envie de marquer le coup, de faire une cérémonie pour leur mariage ou pour accueillir leur enfant d'une façon particulière, ou encore dans le cas des funérailles. Et puis ça permet à tout le monde, toute confession confondue, de pouvoir accéder à ce type de cérémonie.
Alors, toute confession confondue, peut-être aussi justement pour pouvoir, entre guillemets, mieux encore se mélanger, puis aussi pour les mariages pour tous.
Oui, bien évidemment, pour les mariages pour tous.
Concrètement, ça se passe comment ?
La cérémonie, elle demande une grande préparation. En tout cas, pour ce qui est des mariages et des baptêmes, qui se prévoient quand même longtemps à l'avance. Donc, les personnes prennent contact avec le ou la célébrante de leur choix. Environ 6 mois avant la cérémonie, une année, c'est au plus tôt. Et puis, ensuite, il y a un premier rendez-vous qui se fait sans engagement pour faire connaissance, établir le contact, voir si le courant passe, parce que c'est important. On va partager des choses quand même relativement intimes, donc c'est mieux si le courant passe. Et là, il y a une petite demande aussi d'investissement de la part des mariés, parce que sans eux, on ne peut pas créer la cérémonie qu'ils souhaitent. Et puis, pour être au plus près d'eux, ça demande quand même un petit investissement, et puis aussi ça leur permet un petit moment de préparation, de réflexion aussi sur leur histoire, et ça permet de créer vraiment la cérémonie qui leur ressemble. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a plusieurs rendez-vous, il y a le début de la rédaction, bien sûr, en fonction des informations que j'aurais pu recueillir auprès des mariés, de différentes manières, et puis donc plusieurs rendez-vous, et une visite du lieu, et puis bien sûr la célébration, le jour J.
Donc ça permet aussi une certaine liberté de temps, peut-être un certain, sans parler de décalage, mais une autre vision, peut-être un petit peu moins dogmatique aussi, et puis on laisse les personnes au centre de la réflexion et de l'activité.
Oui, complètement. On est vraiment dans les mariés au centre, ou les enfants accueillis au centre, ou la personne décédée au centre, ce qui change effectivement de ce qu'on peut connaître dans les rites habituels qui sont plutôt traditionnels et dirigés différemment.
Ouais, effectivement, et forcément. On fait une petite pause musicale sur Radio Chablais, on se retrouve tout à l'heure. Comment on suit vos activités, comment on découvre ce que vous faites ?
Vous pouvez visiter mon site internet www.lumene.ch, lumene.ch, et je suis également sur Facebook et Instagram, lumene.ch, oui.
Merci, on se retrouve dans un petit moment, Nico Fraiseur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud,
c'est chaud. Sur le grill. Oh,
bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sur le grill.
Or, Nico Fraisard avec nous toujours ce matin pour parler de cérémonie laïque pour les enterrements, les baptêmes ou les mariages. Or, Nico Fraisard, alors, que vous demandent les gens en général au niveau des originalités, ou est-ce que c'est très classique? Comment ça se passe? C'est quoi aussi un peu la différence avec les cérémonies laïques et les cérémonies traditionnelles?
Pour l'instant, j'ai pas eu de demande particulière et spéciale. C'est toujours des demandes qui correspondent à leur univers, en fait. Et c'est ça qui est assez magnifique, c'est de pouvoir passer d'une cérémonie à l'autre, d'un univers à l'autre. Et par exemple, le dernier mariage, ils étaient très dans l'univers très féerique et très enchanteur, Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Donc voilà, et les autres, pas du tout. Donc voilà, c'était très chouette de pouvoir répondre à cette demande et de créer le texte aussi en fonction de leur univers et de leurs envies.
Ça demande une imagination assez incroyable de votre part aussi. Ça demande une immersion dans l'univers des gens, donc ça veut dire une compréhension quand même particulière, une écoute vraiment particulière.
Ça demande aussi de savoir lire entre les lignes et de lire dans les regards.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, quand on a un couple en face, il y aura ce qu'ils m'auront répondu par écrit sur leur questionnaire, mais il y aura aussi tout le non-verbal qui se joue entre eux. Et on en apprend beaucoup en les regardant interagir entre eux pendant les rendez-vous de préparation. Et c'est ces petits détails-là qui sont à capter pour pouvoir rendre la cérémonie vraiment unique et qui leur correspondent, et authentique surtout.
Il faut une certaine empathie, il faut une compréhension, une écoute, vous l'avez dit. Ça ne s'apprend pas, c'est inné, ça, c'est le genre de choses qu'on a au fond de soi.
Je pense que la vie nous apprend ça, les expériences professionnelles peut-être aussi, peut-être un petit bout d'inné.
Et puis alors, concrètement dans l'organisation, vous l'avez dit tout à l'heure en première partie de l'interview, il y a plusieurs rendez-vous qui vont se faire. Après, est-ce qu'on va rencontrer aussi peut-être les proches autour, suivant les personnes, suivant les cérémonies, pour aussi pouvoir amener, entre guillemets, encore plus votre patte personnelle et ce qui fait l'entourage et la vie des gens pour qui vous allez officier?
Oui, alors ça dépend encore des situations. Souvent, il y a quand même des membres de la famille ou les témoins qui vont amener un témoignage durant la cérémonie. Pareil, durant les cérémonies de baptême ou de funérailles, il y a toujours un proche qui va parler. Si on a le temps de les rencontrer, alors c'est royal, c'est parfait. Souvent, ça se fait par écrit. Et puis, une rencontre le jour J, quelques instants avant la cérémonie, pour faire connaissance.
Les cérémonies laïques, c'est aussi, alors ça c'est du vécu, peut-être aussi des lieux qui changent. Ça permet d'aller dans des lieux un peu plus particuliers, plus marquants peut-être pour les personnes, et vraiment différents. Ça m'est arrivé de faire ça dans des grands jardins ou sous un arbre symbolique. Là aussi, on peut travailler différentes symboliques et différents lieux et partages avec les personnes demanderesses.
Oui. Alors effectivement, et c'est toujours des lieux incroyables, forcément puisqu'ils sont liés à l'histoire et aux souhaits des mariés, donc forcément qu'on est dans des lieux à chaque fois extraordinaires. Effectivement, sous un grand arbre, c'est magique. Pour les cérémonies de funérailles, ça peut aussi être complètement à l'extérieur, dans un endroit qui correspond aux souhaits de la famille, aux souhaits du défunt éventuellement.
Toutes ces cérémonies laïques, il y a encore plein d'autres questions qu'on peut poser, et c'est l'essentiel de la relation qu'on va avoir avec vous, c'est cet échange très très important. On rappelle comment on prend contact avec vous au niveau des réseaux sociaux et du site internet.
Oui, donc sur mon site internet www.lumene.ch, L-U-M-E-N-E-E.ch, ou alors sur ma page Facebook ou Instagram.
Avec le même nom, Lumene. Ornico Frézard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sur le grill. Oh,
retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais.
Caroline, ce matin, à nouveau avec nous pour une nouvelle chronique. Bonjour.
Bonjour, on s'intéresse à la nature.
Ah, ouais, ça fait
aux petites
bien,
abeilles
ça.
Qui font bzz, bzz, bzz. Est-ce que c'est vraiment la reine qui commande?
Bon, je pourrais dire que quand même un petit peu, non? Elle donne un petit peu les grandes lignes.
Alors non.
Pas du tout.
Pas du tout. En fait, c'est pas les ouvrières qui sont aux ordres de Sa Majesté, non, non. En fait, si tu veux, une abeille seule ne peut percevoir, elle a de la difficulté à trouver une cible. Mais une fois qu'elle a trouvé quelque chose, en fait, elle communique entre elles, et après, c'est des traces chimiques. Ce qui fait qu'après, elle retrouve les traces chimiques, les abeilles, et puis elles savent où elles peuvent trouver quelque chose de bon à ramener à la maison. Alors que la reine, en fait, elle est juste là, entre guillemets, pour produire des ouvrières.
Ouais.
C'est juste une pondeuse.
C'est une pondeuse, effectivement.
Point barre. Rien
elle
d'autre.
Indispensable. Surprotégée d'ailleurs. Il faut lire d'ailleurs les bouquins de Werber sur les fourmis,
oui,
et qui parlent aussi des abeilles, parce que c'est effectivement passionnant le fonctionnement interne de tout ceci.
Et c'est incroyable, tu peux les observer. D'ailleurs, les fourmis sont très proches des abeilles,
ouais,
dans le mode de fonctionnement. Donc la reine, elle a des attributions, soit, mais c'est pas elle qui dirige.
C'est juste un symbole.
Voilà.
Ça nous rappellera certaines choses au niveau de la royauté. Merci
qu'on
beaucoup,
se le dise.
Caroline.
À la bientôt.
Radio Chablais, programme de nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Sarah Pagin, bonjour.
Bonjour Florian.
Vous êtes cantatrice, vous allez vous produire hein, dans le courant de cet été et puis cet automne dans notre région. Ça sera le Sion Festival pendant l'été, l'Opéra du Rhône ensuite avec un Faust de Gounod hein, dont vous interprétez le rôle de Marguerite, le premier rôle, on va en parler évidemment. Vous m'avez donné rendez-vous à Cuilly, voilà, Cuilly avec ce spectacle magnifique des montagnes du Chablais au loin de la France et les vignes bien sûr. Pourquoi cet endroit?
Alors je suis très attachée à cette petite ville parce que mon père y a vécu pendant des années, il m'en avait toujours parlé avec des étoiles dans les yeux, et puis on a décidé d'y emménager quelques années, on a vécu 3 ans ici avec mon mari et mes enfants, et donc j'ai eu la chance de découvrir cet endroit que je me suis approprié, et j'ai connu le festival aussi, le Lavo Classique, dans lequel j'ai chanté 2 années consécutives, et je suis toujours liée à cet endroit parce que je fais encore partie du comité des amis du Lavo Classique.
J'ai même vu que vous aviez participé à un jury. Hein.
Oui, c'est vrai. Aussi, ouais.
C'est une consécration quand on se met à juger les autres, non? Dans un métier artistique.
Oui, c'est très délicat et en même temps, on essaye d'être juste en étant bienveillant. Mais c'est un exercice très intéressant. J'ai bien aimé.
C'est un endroit qui vous inspire. Quels sont vous habitez à Genève aujourd'hui, hein, c'est la ville, alors c'est pas la mégapole européenne, mais quand même c'est la grande ville. Vous avez besoin de sortir un peu, vous avez besoin de vous ressourcer, de nature.
Oui, moi j'aime beaucoup la nature, et d'ailleurs on était tellement en manque de nature qu'on a acheté un petit moulin en Bourgogne, complètement perdu, et donc dès qu'on peut on va là-bas. Ou on revient à Cuilly aussi passer des week-ends avec nos amis. Donc effectivement, j'ai vraiment besoin de la montagne, du lac et de verdure.
Si on vous dit chanteuse, vous prenez ? Ou il faut dire cantatrice ?
Non, je préfère chanteuse parce que je ne chante pas que. Mais non, mais parce que je ne chante pas que du lyrique en plus. Donc moi, j'aborde beaucoup de répertoires différents. Et cantatrice, on imagine tout de suite la Castafiore ou une voilà. Et en fait,
La Castafiore, elle va nous suivre un petit peu.
Oui, elle va nous suivre. C'est pour ça que j'en parle. et en fait, je dirais plutôt chanteuse ou éventuellement chanteuse lyrique qui s'ouvre à d'autres répertoires, mais chanteuse.
Comment ça vous est venu cette affaire ? Famille musicienne, hein, votre frère est pianiste. Le chant, l'idée de se produire sur scène, vous vous souvenez de ça ?
Alors, mes deux parents sont des grands violonistes, donc j'ai grandi dans le milieu de la musique classique, et en fait, tout naturellement, j'ai fait de la musique. Après, moi, j'avais pas trop envie d'être chanteuse, c'est ma mère qui m'a poussée à faire des cours de chant. Moi, je voulais être pilote d'avion de chasse, aucun rapport, mais j'adore les avions de chasse. Et après,
petit esprit guerrier comme
oui,
ça.
Oui, voilà. Mmh. Et puis on a une belle aviation ici en Suisse, hein. Une belle aviation militaire.
Mais ils peuvent pas accélérer complètement, sinon ils sortent du pays.
Oui, c'est ça. Mais non, pour être sérieux, non, je voulais vraiment être pilote d'avion de chasse. Et après, ma mère m'a dit, allez, fais quand même des cours de chant, tu verras, c'est chouette. Donc j'ai vraiment commencé pour lui faire plaisir. Et en fait, il s'avère que j'ai adoré et que j'adore le moyen en fait qui me permet d'exprimer mes sentiments ou une émotion ou une théâtralité sur scène. Le moyen chant me plaît beaucoup.
C'est la qualité des professeurs, j'imagine, est déterminante, surtout quand on y va un petit peu à reculons comme ça.
La qualité des professeurs est déterminante, et puis l'entourage.
Je vous pose la question parce que vous donnez vous-même des cours de chant,
oui,
hein, ça doit.
Oui. Mais en fait, j'ai été super bien entourée. J'ai eu des déceptions comme tout le monde, et puis j'ai eu des professeurs extraordinaires, dont Martine Abella, qui était mon professeur à la Haute École de Musique de Genève. Et que je remercie du coup, j'en profite pour le remercier pour tout ce qu'il m'a donné, appris sur la technique, mais aussi sur le corps.
C'est particulier, hein, la voix comme instrument, c'est une partie du corps. Un pianiste, le pianiste il range pas son piano, le piano reste à l'endroit, mais enfin un violoniste range son violon et puis vit. La voix, elle vous accompagne tout le temps, il faut la protéger tout le temps, vous avez une écharpe, j'en étais sûr, hein, un chanteur, une chanteuse d'opéra vient avec une écharpe, c'est évident. Vous êtes dans ce concept de sauvegarde de la voix, quoi qu'il arrive, il y a une peur un peu constante.
On est tout le temps connecté à sa gorge en fait, c'est-à-dire que quand il y a un courant d'air, moi je parle pas, quand je vais en soirée que c'est fort, je parle pas, quand il y a la clim, je fais très attention, on est tout le temps...
Quand vous faites 12 heures d'avion pour aller au Canada faire concerts...
Ben, je parlais pas dans l'avion...
C'est un pari, c'est pile ou face,
Non, je parle pas, et puis on a des super maintenant appareils à vapeur qu'on met sur le nez pour humidifier les cordes vocales dans les endroits secs comme l'avion justement, et j'ai toujours des bonbons à la sauge dans mon sac, enfin c'est vrai qu'on est tout le temps connecté à notre corps et c'est vraiment une discipline en fait
Bon, pour autant, la petite crève de saison, le nez qui coule, les oreilles bouchées, ça arrive. Quand on a un concert trois jours après, vous avez quoi ? Vous avez des méthodes ? Vous n'allez pas me dire du citron et du miel, parce que ce serait trop facile.
Mais si, ça marche très bien. Le gargarisme à l'aspirine. Et puis, il y a un truc qui marche très bien, c'est l'adrénaline. Et en fait, j'ai eu des crèves monumentales. Et une heure avant le concert, je ne pouvais pas chanter. Et j'arrive sur scène et je chante. C'est inexplicable.
Ah ouais, ça, c'est le miracle de l'adrénaline. Hein.
C'est l'adrénaline, en effet, c'est incroyable. Ouais. Mais effectivement, quand on a un rhume, on est très stressé avant. Une prestation très stressée.
Bon, c'est pas du sport, c'est de l'art, mais quand même, il y a une dimension de maintien de la forme, hein, quel que soit le contexte. J'ai vu une interview de vous, un bout d'interview pendant le Covid, hein, où justement les échéances c'était fini, il y avait plus de concerts, il y avait plus rien. Par contre, il fallait continuer à bosser sa voix. On peut pas la laisser de côté. Hein.
Ah ben non, c'est un muscle qu'il faut entraîner.
Ouais, c'est ça.
Et il y a pas que les cordes vocales, c'est tout l'appareil respiratoire. Qu'il faut travailler. Donc, en fait, c'est une sorte de sport intérieur.
Mmh. Vos proches sont. C'est bon ?
C'est-à-dire ?
Ben, je sais pas, ils ont des boules caisses.
Mais alors, contrairement à ce qu'on pense, les meilleurs exercices pour la voix sont des exercices.
Pas forcément sonores.
Exactement, c'est des exercices silencieux. Donc, vraiment, là, je ne vais pas vous faire d'exemple parce
qu'on est dehors.
Non,
c'est ce silencieux. En voilà. Plus, on est à la radio.
Non, mais ça fait des choses comme ça. Et on n'est pas obligé de gueuler pour.
Bon, voilà. J'élimine l'image de vous vocalisant dans votre salon.
Non, oubliez. Qui crie sur son mari et ses enfants, non, c'est pas ça.
Bon, vous aimez, j'ai vu de vous qu'il y a déjà un petit moment, hein, vous rêviez de jouer Daphnis. Je suis Daphnis et Chloé de Ravel, moi c'est Péléas et Mélisande de Debussy. Vous rêviez d'interpréter ce rôle-là, ce qui vous place pour moi, et je l'ai confirmé ensuite en faisant des recherches sur vous, dans cette musique française du début du XXe siècle que j'aime tant. Pourquoi ce moment-là, qui sont des opéras moins connus que Verdi, moins connus que Puccini, moins facile aussi peut-être, hein, parce que moins souvent monté, etc.
J'adore cette question et je vous remercie de l'avoir posée. Alors moi, effectivement, j'ai un goût pour la musique française du début du XXe. Donc Francis Poulenc, pour moi, c'est mon héros absolu, je l'adore. Poulenc, Debussy, Ravel. Et alors, j'aime cette musique pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me sens très proche de la musique en elle-même. Elle est déjà donc plus proche dans le temps. Dans le temps, puisque c'est pas, comme vous avez dit, Verdi, Puccini, il y a 200, 300 ans. Là, on est vraiment il y a 50 ans, pour Poulenc notamment. Et puis surtout, c'est la langue française, moi, qui me parle. C'est ma langue, et j'ai fait des études de lettres et de littérature, et je suis amoureuse de la langue française. Et donc, la valoriser par la musique, je trouve ça exceptionnel. Et j'ai même fait mon master sur la prononciation du français dans le chant. Donc, j'ai vraiment une passion pour la langue française, et des compositeurs comme Francis Poulenc par exemple, ou Ravel ou Debussy l'ont valorisé dans la musique. Ils mettaient en valeur le poème ou le texte avant la musique, qui était un support pour le texte.
Alors moi j'ai des connaissances limitées, mais comme vous j'adore cette période-là, et il y a un vrai accaparement de la poésie justement. Ils ont mis en onde les surréalistes, ils ont été vers une poésie de leur temps, hein,
c'est ça.
Versus des livrets d'opéra, etc., des histoires. Il y a quelque chose d'immédiat dans l'expression. C'est aussi des pièces courtes, souvent.
Ce sont des pièces courtes et...
Des chansons.
Oui, j'aime la sensualité, en fait, de la langue française quand elle est chantée. Parce qu'on dit souvent que c'est une langue plate, qui n'a pas d'accent. Mais quand elle est chantée, on peut en faire tellement de choses. Et puis, c'est plus facile de chanter dans une langue qu'on maîtrise parfaitement. Quand on me demande de chanter en russe, c'est un peu plus compliqué. J'esquive ou je propose autre chose. Parce que pour moi, c'est trop important de comprendre la structure d'une phrase, ou de comprendre l'importance d'un mot dans le texte. Ce qui est moins important dans l'opéra, le grand opéra italien, la musique passe presque avant le texte. Et dans la musique française, ou dans le lead, ou dans cette musique-là, le texte prime sur le... Et d'ailleurs, les compositeurs et les poètes collaboraient ensemble.
Oui, ils faisaient partie de la bande. Hein.
C'est ça.
C'était le climat parisien.
Exact, dans les salons.
Des années folles. Merveilleuse époque, merveilleuse musique. Vous avez mis en reflet Satie, hein, avec tout un spectacle. Voilà. Je disais tout à l'heure, c'est un monde de la musique classique qui est un peu plus difficile. Non pas techniquement, ça j'en sais rien, mais en tout cas, qui est moins pimpé. Quoi. Moins,
oui, c'est plus élitiste.
C'est plus
peut-être.
Difficile d'avoir des spectacles qui se monte autour de l'enfant et les sortilèges de Ravel que d'Aïda ou de Carmen, quoi. Ça a une implication dans votre carrière ?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais ça m'est égal, en fait. C'est pas grave. Je préfère faire des choses que j'aime, quitte à plaire à un public un peu plus restreint, à une niche, mais quelque chose que je fais, je pense, bien et qui me corresponde. C'est pas grave si je fais pas... Il y a beaucoup de chanteuses qui savent chanter du Mozart et du Verdi parfaitement. Et je me dis que c'est pas grave si je préfère faire ce que j'aime.
C'est bien, parce que je décèle que c'est vous qui choisissez vos choses, vos passions. Et moi, j'avais l'impression que c'est souvent la voix qui décide. Hein. On est coloratour, on va aller vers telle musique. On est soprano lyrique. Vous êtes soprano, hein, on l'a pas dit au début de cette émission, soprano. On va aller vers d'autres œuvres. Donc là, vous, votre voix correspond à vos goûts, ou bien vous avez dû la forcer un peu ?
Non, par chance, ma voix correspond à mes goûts. Absolument. J'ai beaucoup de chance pour ça. Mais c'est là où vous avez aussi raison, c'est que je choisis souvent aussi effectivement mon répertoire. Là, par exemple, à Sion, donc pour le festival Tibor Varga, on m'a dit, est-ce que tu peux nous monter un récital? Le thème de la saison, c'est danse et virtuosité. Donc effectivement, j'aurais pu choisir du Monteverdi et du Lully et de la musique ancienne, ou je sais pas. Et moi, j'ai choisi Massenet, Bizet, Poulenc, autour de la danse. Donc il y a des valses, des tangos, Kurtweil, enfin, j'ai choisi la période que j'aime effectivement et qui me permet aussi, parce que c'est un peu ma spécialité aussi, de faire du crossover et de me proposer du jazz et du musical.
Crossover, c'est pas un sport, donc on est d'accord. C'est pas un sport, le crossover.
Non, c'est pas un sport. Crossover, c'est de mélanger les différents répertoires et types de musique.
Ça, c'est intéressant. On y reviendra dans la deuxième partie. On arrive gentiment à la fin. Mais non, il y a pas de problème. l'éclectisme. Hein. Allez. Choper comme ça des trucs qui vous plaisent. J'ai vu que vous aviez repris, c'est peut-être un petit peu ancien déjà, mais Dépêche Mode par exemple, en duo.
Oui, moi j'adore. On a fait donc le Kadish de Ravel, où on a donc repris de la musique française et on l'a électroisé avec ce DJ. Et puis on a repris effectivement un morceau de Dépêche Mode où à la fin je mets quand même des vocalises lyriques et moi j'adore le mélange des genres. J'adore ça. Je trouve que c'est le meilleur moyen en fait de s'ouvrir à d'autres publics. Justement, vous parliez du côté un peu élitiste de la musique française, mais de faire connaître cette musique.
Radio Chablais et toutes nos web radios sur radiochablais.ch et notre application.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling.